Qu'est-ce qui, dans sa jeunesse, détermine un homme à devenir un tyran ? Est-il possible de déceler la perversité derrière les boucles blondes et les joues rebondies ? De l'enfance fantasmée à la dynastie totalitaire, plongée dans l'histoire intime des plus grands dictateurs du XXe siècle. Vous écoutez Anatomie d'un dictateur, à la source de la tyrannie, première partie.
Dans tous les régimes totalitaires, autant que la peur et la violence, le mensonge est nécessaire pour que perdure le système. Se construisent alors des légendes autour de l'enfance du dictateur. La propagande du régime invente et crée un mythe auquel tous doivent croire.
La propagande nord-coréenne laisse à penser que le dictateur est une sorte de héros de légende enfantine.
Pascal Daillé-Burgeon, chargé de mission au CNRS et ancien diplomate en Corée.
Je crois que toutes les dictatures génèrent systématiquement une propagande, je dirais, de masse plutôt infantilisée. Ce qu'on disait de Mussolini, par exemple, qu'il ne dormait pas, ou que la nuit, les plombs sautaient lorsqu'il honorait sa maîtresse, tellement il était vigoureux. Ça fait rire aussi, hein. Et c'est de même nature quand on explique Kim Jong-un ne dort pas, Kim Jong-un ne mange pas, c'est tout aussi ridicule. Mais la propagande est absolument essentielle au système. C'est-à-dire que le système a tellement mis en avant l'héroïsme familial qu'on ne peut plus s'en sortir. Il y a une logique autosuffisante. Donc il remplace au fond tous les héros de l'ancien temps, il remplace les figures tutélaires mythologiques de la culture coréenne. Il y a une identité absolue entre les dirigeants et le pays lui-même. Donc en fait, il y a avant Kim Il-sung, hein, comme il y avait avant Jésus-Christ, puis il y a à partir de la naissance de Kim Il-sung, l'apparition d'une nouvelle ère, et Kim Il-sung est celui qui a tout fait changer. Et donc son fils et son petit-fils sont dans la même lignée. Ce sont des demi-dieux, ce ne sont pas des êtres normaux. Et donc à ce moment-là, on entre dans un type de psychologie totalement différente de ce qu'on peut imaginer.
Mythe et légende sont nécessaires pour asseoir un despote. Et ceci lui dessine un destin parfois si exceptionnel qu'il devient difficile aux historiens de démêler le vrai du faux.
On a affaire, en quelque sorte, à un objet qui est empoisonné, tout simplement parce que, comme il s'agit de dictature, cet objet a été recomposé, retravaillé par les dictateurs quasiment tout le temps.
Didier Mouchet-Delac, professeur en histoire contemporaine.
Ils s'en sont soit occupés, je dirais, pour refaire une image qui leur convenait à eux, ou soit ils ont délibérément détruit la documentation. Parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a une idée qui est centrale, c'est qu'un chef, dès sa naissance, n'est pas quelqu'un de normal.
Certains tyrans s'emploient eux-mêmes à construire cette légende. Benito Mussolini, né le 29 juillet 1883 à Predappio, participe de nombreuses fois au cours de sa carrière d'homme politique à l'élaboration de son histoire recomposée. C'est à l'âge de 28 ans qu'il commence ce travail de réécriture.
Suite à la guerre de Libye, en 1911-1912, il croupit en prison. Et là, il s'interroge sur sa vie. Et là, il se dit, finalement, où j'en suis ? Et il va en déduire qu'il a forcément un destin exceptionnel, qui vient des milieux pauvres. Et il se fabrique déjà un monde à lui. Il réaménage déjà sa première enfance en disant qu'il était bagarreur. Dès 4 ans, il allait casser la figure à ses petits camarades, qu'il a continué après dans toutes ses études secondaires, et qu'en fait, il se forge l'image, alors qu'en 1911-1912, il n'a pratiquement aucune chance de connaître son futur destin. Donc ensuite, ça c'est le premier volet. Deuxième volet, 1928, il est au pouvoir depuis 1922, depuis 6 ans. Et là, il nous livre un portrait qui n'a plus du tout la même consonance. Un portrait où il se présente Les origines pauvres sont évacuées, il s'inscrit dans une lignée quasiment d'aristocrates, il corrige tout ce qui est misérabilis, il apporte des correctifs à sa vie. Tout simplement parce que le dictateur, lui, il est persuadé qu'il a à l'origine un destin exceptionnel, qu'il est né du peuple, ça c'est très intéressant, et que comme né du peuple, il est appelé à commander le peuple.
L'allié allemand du dictateur italien, Adolf Hitler, procède de la même manière dans le récit de son enfance. Il y dessine le portrait confus d'un enfant, puis d'un jeune leader révolté face aux injustices, qu'il s'invente également et qu'il formalise dans un livre devenu un véritable brûlot.
Le récit d'Hitler par lui-même, c'est dans Mein Kampf, et ce n'est certainement pas à prendre au pied de la lettre, hein, puisque Mein Kampf est écrit en 1924, à un moment où Hitler est défait politiquement, où il doit se refaire, comme au jeu.
Johann Chapoutot, historien.
Et dans ce livre-là, qui est à la fois un manifeste politique et une autobiographie supposée, il crée un mythe. Le mythe du marginal, le mythe du héros éloigné, qui advient peu à peu à la lumière. Dans Mein Kampf, Hitler vise à montrer qu'il est un homme sorti du rang, qu'il est un Allemand parmi d'autres, un Allemand ethnique en l'occurrence, puisqu'il n'est pas Allemand du point de vue d'état civil, hein, c'est un sujet de l'Empire austro-hongrois. Et tout le récit de son enfance vise à montrer cela, en grossissant les traits de son éloignement, de sa misère supposée, alors qu'on sait que la prime enfance d'Hitler a été beaucoup moins difficile que ce qu'il le dit.
En Chine, un autre dictateur tente lui aussi de revisiter sa jeunesse par l'écrit. C'est pendant la Longue Marche, périple de plus d'un an, mené par l'Armée populaire de libération, que Mao Zedong s'affirme comme chef des communistes chinois. C'est lors de ce périple que le futur dirigeant suprême du Parti communiste contribue à l'invention et à la rédaction de sa jeunesse fantasmée.
Au départ, c'est Mao lui-même qui s'est fabriqué ce personnage.
Alain Roux, historien et sinologue.
Il faut rappeler qu'en 1936, après la Longue Marche, alors qu'il était perdu au bout du monde, au bout de la Chine, dans un endroit impossible, aux confins du désert du Gobi, avec les vents de sable et tout ce dont on parle en ce moment, c'est ce monde très dur, minéral, sinistre. Il était perdu, là, il avait survécu à la Longue Marche, mais il lui restait une poignée d'hommes. Il était Mao, par une série d'initiatives, s'est fait interviewer par un journaliste américain, Edgar Snow, et là, il a présenté l'histoire de sa vie déjà transformée en épopée par lui-même. Ça a donné ce livre extraordinaire qu'a lu ma génération avec passion, Étoile rouge pour la Chine.
Dans la patrie de Joseph Staline, la nouvelle URSS, la mise en scène de l'histoire de l'homme fort du régime est poussée à son paroxysme. Sa légende l'a souvent représenté comme un enfant fort et bagarreur, et un chef de bande craint de tous. La réalité est tout autre. Né en 1878, dans un milieu très modeste, il est un enfant chétif qui échappe à de nombreuses reprises à la maladie, voire à la mort. Gravement blessé dans son enfance par une charrette, son bras gauche restera paralysé à vie.
Présenter Staline dans sa jeunesse comme un bagarreur, chef de bande, c'est une plaisanterie.
Jean-Jacques Marie, historien spécialiste de l'URSS et du communisme.
Il n'a pas les moyens d'être chef de bande. Il peut participer, il peut pousser les autres à aller se battre. Et il peut les exciter par des remarques sévères. Mais lui-même ne peut pas remplir ce rôle. Vous ne pouvez pas être un chef de bande dans une civilisation paysanne si vous ne pouvez pas vous-même cogner sur les autres. En fait, Staline a toujours été un peureux. Et ça se marque très vite tout au long de sa carrière. Le dernier voyage qu'il fera dans la population de l'URSS, pour voir les membres, les cadres de son parti, c'est 1928. Dès 1931, il fait voter par le bureau politique une décision lui interdisant de sortir, même accompagné de garde du corps, à pied dans Moscou. D'où le fait qu'il faut que la légende le transforme en contraire du peureux, d'où les films sur la guerre civile où on le voit sur un marchepied, sur la locomotive, en train de défier les Blancs. Bon, mais ça ne correspond en rien à une réalité.
Le mensonge est l'un des piliers des régimes totalitaires. Il faut toujours tordre la réalité, jusqu'à ce qu'elle se conforme au discours et à l'idéologie du dictateur.
Comme pour beaucoup d'enfants, il y a deux figures déterminantes dans l'enfance d'Hitler, qui sont le père et la mère. Hitler a hurlé une image de sa mère qui est tout à fait classique, la douceur, la sensibilité, l'amour maternel, etc. Ce que, sans doute, elle a évidemment incarné à ses yeux, puisqu'elle aimait beaucoup son fils Adolf. Mais on sait que, par ailleurs, c'était une gestionnaire de ménage tout à fait efficace, pas du tout effacée et très, très présente. Donc, ce n'était pas du tout la petite chose effacée et victime que son fils a pu dépeindre dans Mein Kampf et par la suite. Mais il est vrai que, par contraste avec un père violent, grossier, brutal, épais, un père qui, d'ailleurs, n'aimait pas son fils, très clairement, la mère a incarné un pôle de douceur, d'accueil et de sécurité affective qu'Hitler, au fond, ne rencontrera plus jamais dans sa vie.
Alcoolique et violent, Alois, l'autoritaire père d'Adolf Hitler, a la main leste sur sa femme et ses enfants. Le jeune Adolf devient sa victime préférée. Il est battu violemment, parfois jusqu'au sang.
C'est un fonctionnaire des douanes, très fier de son uniforme, de ses bacchantes, de ses moustaches, qui décalque quasiment l'empereur François-Joseph. Il hait cordialement son père, à qui il ressemble pourtant, dans sa violence, dans son orgueil, dans son hubris, dans sa satisfaction de soi. Et par ailleurs, il déteste cette monarchie austro-hongroise qui signe à ses yeux un échec historique. Puisqu'en 1871, il y a eu une unification qui a créé l'Empire, le Reich, mais une unification qui est incomplète, puisque demeurent hors des frontières du Reich toutes les populations germaniques d'Autriche-Hongrie. Et ça, c'est un échec terrible pour Hitler et pour les pan-germanistes. Et tout ça se confond chez Hitler, le père et l'Empire, dans une détestation identique.
L'histoire est tout autre pour un autre enfant devenu dictateur. Benito Mussolini. Son père, Alessandro, est à la fois son bourreau et son mentor.
Le père, il est forgeron, puis il va tenir un cabaret, il boit. On ne peut pas dire non plus que Mussolini s'est plaint d'avoir reçu des coups de son père. C'est plutôt l'idée du modèle qui revient. Alessandro, c'est le modèle, plutôt sous l'angle de l'action politique socialiste, modèle aussi sur le plan de la virilité. Et c'est ça qui va fonctionner dans la tête de Mussolini. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la mère, Rosa Maltoni, qui, elle, incarne la douceur. Elle est institutrice, elle est d'un milieu social plus élevé. Et donc, elle va donner à Mussolini un éveil intellectuel, certains. Mais je crois qu'il faut quand même se poser la question des analyses psychiatriques et d'ordre psychanalytique qui ont été menées à l'époque. L'inventeur de la psychologie individuelle, qui est Alfred Adler, pose la question centrale à travers le cas Mussolini. Savoir au fond pourquoi on devient dictateur. Et là, il met en évidence quelque chose qui est un des thèmes centraux de la pensée de Adler, c'est le complexe d'infériorité. Complexe d'infériorité qu'il va nourrir, lui, en disant « il y a deux pôles dans la famille,
En fait, Alessandro représente le pôle de la rébellion, incarné par le socialiste, le bakouninien Lanar, qui était Alessandro Mussolini. Et la mère, Rosa Maltoni, représente la femme protectrice. La femme protectrice qui, dans la pensée de Adler, a des vertus, en revanche, qui conduisent à plutôt à des pratiques d'intériorisation du complexe. Donc c'est quelque chose, voyez, qui fait que, dans le cas de Mussolini, on a cette idée que Mussolini est le fruit d'un complexe d'infériorité qui le conduit à avoir dans la vie publique un comportement de supériorité. Il sublime en quelque sorte sa faiblesse intérieure.
C'est dans le Yunnan, une province montagneuse du sud de la Chine, qu'est né en 1893 le leader Mao Zedong. Il deviendra le dirigeant sans partage du Parti communiste chinois de 1949 à sa mort en 1976.
Il est d'une famille de paysans enrichis, on dirait maintenant de paysans riches. Et quand il est né, sa mère avait 27 ans, elle commençait à être inquiète de savoir si elle pourrait avoir une descendance mâle, un devoir absolu en Chine. Et il a été accueilli comme un peu le salut. Ça le mettait dans un statut un peu privilégié. Et là, son père le prend en main. Son père a l'intention de le faire travailler très vite. C'est un paysan rude. Il a le sens de l'autorité, il a été militaire. Et ce père rude, pas aimant du tout, grand, costaud, le frappant facilement. Il dira lui-même, d'ailleurs, à Snow, quand je parle de cette interview, en chinois, bon, je haïssais mon père. Renta, c'est extrêmement dur dans cette société confucéenne où un des devoirs des enfants, c'est ce qu'on appelle xiao, le devoir, la piété filiale. C'est une vertu cardinale en Chine. Il dit qu'il haïssait son père. Et il aimait sa mère. C'est l'Oedipe caractérisé.
En 1937, en Irak, au cœur de la région désertique de Tikrit, naît l'un des dictateurs les plus emblématiques de l'histoire du Proche-Orient, Saddam Hussein. Ce despote, lui aussi, connaît la pauvreté et la violence d'une figure paternelle.
L'Irak, en 1937, est un pays pauvre. Et à Laouja, le village où est né Saddam Hussein, est un village où il manque de tout, pratiquement. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, il n'y a pas d'école. Saddam Hussein n'ira pas à l'école. Hein.
Georges Malbruno, journaliste au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient.
Et les gens vivent de l'élevage de quelques moutons, du braconnage aussi sur le Tigre, et donc ils font de la rapine sur cette voie commerciale entre Bagdad et Mossoul. Donc Saddam Hussein naît dans des conditions difficiles, hein, dans un milieu familial sans père, où il reçoit peu d'amour, où il est considéré comme un, entre guillemets, un bâtard. Et sa mère, quelques mois après sa naissance, et donc le décès de son père, va se mettre avec un autre homme qui s'appelle Hadj Hassan Ibrahim, qui va être un petit peu le père adoptif de Saddam Hussein, mais qui va détester Saddam Hussein, qui va être violent avec lui, qui va le battre quasiment tous les jours. Et donc, effectivement, l'âme, je dirais, violente de Saddam Hussein prend corps dès les premières années de sa vie, au milieu de tout cela.
En 2011, alors que se déroulent les obsèques hors normes de Kim Jong-il, le dirigeant suprême de la Corée du Nord, un jeune homme fait son apparition aux yeux du monde. Son fils, Kim Jong-un. Un nouveau leader dont la route n'était pourtant pas tracée.
Le principe dynastique de la Corée recouvre au fond ce qu'on retrouve dans toutes les histoires dynastiques des régimes absolutistes, c'est-à-dire qu'il y a des épouses premières, secondes, des courtisanes et qu'on se bat pour la succession. Donc Kim Jong-il, le fils de Kim Il-sung, a plusieurs mariages, plusieurs épouses, toute une descendance un peu complexe, mais enfin disons qu'il a une concubine favorite qui a enfanté Kim Jong-nam. Mais il a ensuite rompu avec cette concubine qui était malade, qui est partie en Russie, et il en a une autre avec qui il a trois enfants, notamment Kim Jong-un. Donc il a deux enfants de deux femmes différentes qui ne sont pas ses épouses légitimes, car il a une épouse légitime avec laquelle il a eu deux filles. Et au fond, les deux mères se battent jusqu'à la fin pour imposer leur successeur. C'est ce qu'on retrouve, je ne sais pas, en Grande-Bretagne, dans la guerre des Deux Roses au XVe siècle. Enfin, c'est la même idée. Et ces deux compagnes vivent dans des palais séparés, ne se voient pas, ne se supportent pas, ne se connaissent pas. Et donc, dès l'enfance, Kim Jong-nam a été préparé pour la succession et Kim Jong-un et son frère aîné préparés pour défaire le prince héritier pour prendre leur place, en fait. Et dès qu'ils ont pu le faire, ils l'ont fait. Et on sait d'ailleurs qu'il y a quelques années, Kim Jong-un a fait tuer ce Kim Jong-nam, ce qui veut dire que depuis l'enfance, il fallait l'éliminer.
Hitler va connaître une scolarité double, d'abord comme interne dans un monastère, comme ça se fait beaucoup en Autriche, hein, depuis le XVIIe siècle, depuis la contre-réforme, les ordres religieux ont une quasi-prééminence, hein, dans l'enseignement, dans l'administration de l'enseignement, notamment primaire. Donc Hitler est interne, et c'est un élève tout à fait médiocre, hein, dissipé, peu concentré, assez inapte au fond au travail suivi et à la réflexion. Ça, c'est quelque chose qui va le poursuivre d'ailleurs toute sa vie, hein. Il a une seule qualité intellectuelle, c'est l'hypermnésie. C'est quelqu'un qui a une mémoire absolument fabuleuse, ce qui est assez handicapant d'ailleurs, hein. C'est une pathologie, l'hypermnésie. Et lui, c'est la seule caractéristique, si vous voulez, intellectuelle qui le distingue. Sinon, il est véritablement incapable de travailler sur le long terme. Et ça apparaît dès l'école primaire, de telle sorte que à la sortie de l'école primaire, il est versé dans ce qu'on appelle une Realschule, c'est-à-dire un collège d'enseignement professionnel, technique, dans lequel on ne fait pas de latin ni de grec, très peu d'histoire, très peu de lettres, et où on n'est pas du tout formé au baccalauréat ni à l'université. Et même dans ce collège d'enseignement technique, il ne brille pas, et c'est peu de le dire, hein. Il a des résultats tout à fait médiocres, même si il se passionne pour les cours d'histoire de son professeur, hein, le docteur Putsch, qui propose à ses élèves un récit pan-germaniste très orthodoxe. Et ça, le jeune Hitler absorbe très clairement ce discours-là, qu'il entend par ailleurs partout, hein, puisque c'est un discours très répandu dans la droite autrichienne et dans la droite allemande, mais singulièrement dans la droite autrichienne, et c'est quelque chose qui le structure pour la vie.
Plus à l'est, en Russie, le jeune Joseph Staline connaît à son tour les affres d'un père alcoolique qui dilapide le peu de ses revenus. Il vit dans une grande pauvreté, la famille s'abritant dans des maisons précaires, sans eau ni électricité. Sa mère, Ekaterina, particulièrement croyante, décide d'envoyer son fils au séminaire afin de lui éviter cette existence indigente. C'est décidé. Joseph sera prêtre.
Il entre au séminaire et il travaille bien. Et il travaille vraiment bien, c'est-à-dire qu'il se défonce. Mais l'atmosphère du grand séminaire est très pesante. Le grand séminaire est tenu par des moines qui sont à la fois obscurantistes, brutaux et crasseux. Il règne une atmosphère d'inquisition permanente, c'est-à-dire que les moines fouillent dans les affaires des élèves, les moines cherchent de savoir ce que tel ou tel élève a fait ou a dit. C'est à ce moment-là qu'il lit un roman géorgien qui s'appelle Le Parricide, dont le héros est un révolté. Ce héros s'appelle Koba. Et ce roman lui plaît beaucoup. Et il prend à ce moment-là le pseudonyme de Koba, non pas pour avoir une activité politique, mais parce que ça lui plaît d'incarner un paysage de révolté. Et le séminaire, c'est l'image d'en haut, c'est l'image de l'État. D'abord parce que l'Église est un instrument de l'État, à tel point d'ailleurs qu'elle est dirigée par un organisme dont les membres sont désignés par l'État. Donc se révolter contre l'Église, c'est se révolter contre l'État. Et dès lors, il travaille de moins en moins bien et ses notes baissent. Ça va poser un problème. Car à la fin de la cinquième année de séminaire, il ne se présente pas à l'examen terminal. Or, il faut 6 ans pour accéder à la prêtrise. Comme il ne se présente pas à l'examen terminal, il est évidemment chassé du séminaire. Je pense que c'est ces années du séminaire qui sont décisives. Parce qu'il y entre comme un bon fils à sa maman, et il en sort en révolté.
Vous venez d'écouter Anatomie d'un dictateur. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. À la source de la tyrannie est un podcast coproduit par Initial Studio, Théorème et Les Films d'un jour, adapté du documentaire audiovisuel éponyme, coproduit par Théorème et Les Films d'un jour, écrit par Nicolas Cuvelier-Mella et réalisé par François Chaillé. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.